Bonsoir. Deux thèmes dans cette émission. La formation du gouvernement provoque des remous au sein de certains partis et groupements politiques, car des groupements politiques Palou et alliés. Deux malades d'Ebola ont regagné leur famille mardi dernier à Goma, au Nord Kivu, après avoir été déclarés guéris. C'est les résultats du nouveau traitement mis en place par l'équipe des ripostes dirigée par le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans Tribune de la Presse. Dans cette émission, nous avons Pius Romain Roland Ngoy, éditeur de l'hebdomadaire La Base des Patriotes, paraissant à Kinshasa. Bonsoir Pius Romain Roland Ngoy.
Bonsoir Guy Matin.
Serge Banza Babasunga, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC Congo Central. Bonsoir Serge Banza Babasunga. Bienvenue à tous dans cette émission. Nous allons écouter cette revue de presse pour savoir comment la presse quinoise a traité l'actualité de la semaine avec vous, Kéline Kouté.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la première mouture de la liste des ministrables déposée par Ilunga Ilukamba qui a été rejetée par le président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi rejette la liste présentée par le premier ministre, révèle le potentiel, estimant que la nomination du gouvernement est partie pour durer. Le dernier entretien entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba n'a pas fait évoluer les choses dans le bon sens. La liste présentée par le premier ministre n'a pas obtenu le quitus du chef de l'État. C'est le retour à l'expéditeur. Tout doit être refait suivant les nouvelles directives du président de la République, précise le quotidien. Forum des As, titre gouvernement, Fatih prolonge le suspense. À 30 jours de la rentrée parlementaire, on devrait éviter tout retard dans la formation du gouvernement au risque de perturber le calendrier de la prochaine session de septembre, conseille le quotidien, indiquant que les Congolais sont fatigués d'attendre. Les choses traînent parce que, explique à Congo.net, le président Félix Tshisekedi a refusé mercredi 14 août la première mouture du gouvernement attendue depuis 7 mois, estimant qu'il ne respectait pas assez la parité et le renouvellement des générations. D'où il existe toujours un épais brouillard dans le ciel politique congolais, note la prospérité. Les convives devraient encore prendre leur mal en patience. L'heure n'est donc point arrivée pour célébrer la nuit de noces, puisque après le dispatching des postes ministériels entre les deux partenaires FCC Cash, coalition au pouvoir, voire les dépôts récemment des listes des personnalités ministrables par les deux coordonnateurs, grand et regret de constater que du rififi continue à persister au sein des composantes des deux familles, note le quotidien, ajoutant que l'on pourra éventuellement s'attendre à la fête, tout comme à l'enfer des feux qui pourrait s'abattre dans les cœurs de ceux-là qui n'auront pas trouvé satisfait. Parlons santé à présent. Ebola, découverte d'un traitement curatif pour les malades. Nous avons deux traitements maintenant. Ce sont deux molécules que nous allons utiliser parce que d'après les études et les résultats que nous avons obtenus jusque-là, ce sont ces deux molécules qui sont efficaces, a affirmé mardi 13 août le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola en Nord Kivu et en Ituri. Peut-on lire sur www.radioukapi.net. L'efficacité du traitement dépend d'abord de la détection rapide des cas qui permet aussi une prise en charge rapide. A cependant, faire remarquer Docteur Mouyembe. Pour sa part, 7 sur 7 point CD, lorsque la maladie à virus Ebola qui sévit dans deux provinces de l'Est de la RDC depuis maintenant une année a désormais un traitement curatif et non expérimental.
Merci qu'elle écoutait pour cette revue de presse. Un commentaire, Pius Romain Roland Ngoy, éditeur de l'hebdomadaire La Base des Patriotes, paraissant à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi la police qui a dispersé mercredi matin un groupe de jeunes qui tentaient de tenir un rassemblement au stade de Kalinda dans la commune de Mulekera, de Beni, pour débuter, n'est-ce pas, une formation militaire d'autodéfense afin de faire face à l'ADF.
Non, écoute, j'ai l'impression que la démocratie nous a amené l'anarchie en République démocratique du Congo. Il n'y a que le ministère de la Défense et l'état-major général de l'armée qui sont susceptibles de recruter les jeunes gens pour la formation militaire. Le reste, c'est de l'anarchie. Il est vrai qu'il y a l'insécurité dans le Nord Kivu et la population est appelée à collaborer avec l'armée pour mettre hors d'état de nuire ces ADF. Mais il s'avère aussi que l'armée est impuissante dans cette partie de la République. Alors il faudrait que la population ait lieu et place de faire la manifestation ou de s'auto-former pour mettre fin à cette insécurité, autant mieux de s'inscrire dans l'armée. D'ailleurs, j'étais sur un autre plateau. Je le dis, est-ce qu'il est opportun d'inscrire cette année académique les étudiants? Est-ce qu'il est opportun? Pourquoi je le dis? Je donne mes arguments. Vous vous souviendrez que à chaque année académique, on déverse autant d'étudiants sur le marché de l'emploi. Alors qu'il n'y a pas création de l'emploi, donc il n'y a que les chômeurs qu'on envoie sur le marché de l'emploi. Alors pour désengorger aussi nos universités et pour faire face à cette trahison internationale contre la République démocratique du Congo, je me dis, pourquoi ne pas appeler nos jeunes gens sous les drapeaux? Il y a ceux qui seront formés pour créer le patriotisme, le civisme de l'âme des Congolais, puisqu'il y a trop d'incivisme. Les Congolais n'aiment pas son pays. Et je pense que sous les drapeaux, comme ailleurs, on peut quand même aimer son pays. On peut appeler ces jeunes gens de 18 ans qui viennent de terminer les humanités, en lieu place d'aller d'abord à l'université où ils vont apprendre pour ne pas être compétitifs sur le marché, autant mieux servir la nation sous d'autres cieux. On peut les envoyer dans les services de sécurité, on peut les envoyer à l'immigration, on peut les envoyer dans les forces armées, on peut les envoyer à la police. C'est servir toujours la nation. On ne sert pas la nation seulement à la fonction publique, au ministère de Mines, au ministère des Affaires étrangères. On peut servir la nation tout en étant dans l'armée. Et aussi l'État doit avoir cette responsabilité de penser à l'armée, traiter mieux l'armée, parce que certains estiment que être dans l'armée, c'est comme si on le jetait dans un désert. Non, le militaire, la police, ce sont nos vaillants combattants, nos vaillants citoyens qui veillent matin, midi, soir pour notre sécurité. Ils ont droit à un bon traitement. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'il est opportun d'inscrire encore les élèves qui viennent de terminer leurs humanités cette année pour les déverser dans des universités où vous trouvez dans un auditoire plus de 2000 étudiants et on les déverse sur le marché de l'emploi, il n'y a que des chômeurs. Et plus il y a des chômeurs, plus il y a des tensions.
Mais il faut vous rappeler que ce n'est pas tout le monde qui a la vocation de faire l'armée, n'est-ce pas?
Mais oui, c'est pas tout le monde. Tout le monde non plus ne peut pas être mécanicien. Tout le monde non plus ne peut pas être président de la République. Merci. Il y a ceux qui ont la vocation, mais... Et est-ce que vous pouvez me dire que tout Français a la vocation d'être militaire? Mais on voit que dans ces pays, dès que vous terminez votre cycle humanitaire, on vous enrôle dans l'armée, quitte à vous de faire le choix. L'essentiel, c'est d'apprendre le civisme et la discipline pour défendre le pays, pas nécessairement rester dans l'armée.
Merci Serge Banzaba Basunga, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC Congo Central. Des organisations Human Rights Watch et les groupes d'études sur le Congo GEC, basés à l'Université de New York, ont dénoncé mercredi dernier, à travers un rapport, les massacres de populations des Béni. Ces organisations affirment que entre juin 2017 et juin 2019, les groupes armés ont tué 1900 civils et enlevé plus de 3300 personnes dans la province du Kivu. Nous venons de parler de ces jeunes des Béni qui cherchent à s'organiser dans un groupe d'autodéfense, même s'il ne faut pas encourager l'approche qu'ils veulent utiliser, mais est-ce qu'ils n'ont pas raison d'exprimer le ras-le-bol?
Voilà. Merci beaucoup, Guy Maté. Je pense que c'est un peu délicat de notre côté ici, parce que nous ne vivons pas la situation de la même façon que ceux qui sont dans l'est du pays. Il faut dire que jusque-là, il n'y a aucun assaillant appréhendé, soit blessé ou tué par l'armée congolaise depuis que ces massacres ont commencé, depuis presque plus de 4 ans d'ailleurs. Mais je me dis, est-ce que faudrait-il en arriver là? Parce que on ne doit pas confondre les choses. Ici, il est question de sécuriser une province par rapport à une attaque extérieure. Parce que ça s'est réalisé, nous sommes en 2012 à Bukavu. Et les jeunes, en tandem avec la police, ont pu quand même sécuriser la ville de Bukavu. Et c'est quand même une réussite. Mais nous avons une autre expérience qui avait échoué. Nous sommes toujours dans cette partie de la province. C'était pratiquement en 2009, les défunts moines pour sécuriser sa population dans les plateaux du Vira, au titre qui veut toujours, avait sollicité l'appui de la jeunesse. Il avait même demandé aux autorités de donner les armes auprès de la population. Donc, au total, plus de 15 villages avait récité ces armes-là, mais la situation avait dégénéré bien après. Donc, aujourd'hui, accepter de donner les armes à la population, ça va se retourner contre l'État congolais. Ce n'est pas à n'importe qui. Ils ont sauté à ceux qui puissent être formés pendant 21 jours. C'est vrai. Dans tout cela, nous disons que nous devons être très prudents. Cela doit interpeller le gouvernement congolais qui doit comprendre que trop, c'est trop. Il doit s'impliquer parce que sinon, la population, ce que nous avons compris, n'a pas confiance à l'armée. Si vous lisez très bien les revendications de ces étudiants, nous avons tous retenu qu'ils n'ont pas confiance à l'armée congolaise, surtout à ce général qui est en train de diriger les histoires dans cette partie de la province. Donc, je pense que le mieux serait d'abord de relever ce monsieur, c'est-à-dire le général de ses fonctions, aussi peut-être de placer certains militaires, parce que la population n'a plus confiance. Or, tout ce qu'on demande à la population, c'est de collaborer avec les services de sécurité, de collaborer avec l'armée. Mais nous avons remarqué dans les revendications comme si cette population n'a plus confiance ni au général, ni à ses troupes. Donc ça pose un problème.
Merci. Notre premier thème de ce soir, la formation du gouvernement provoque des remous au sein de certains partis et regroupements politiques. Cas du regroupement politique Palou et Allié, pour avoir contesté la liste envoyée au Premier ministre comportant des personnes devant figurer dans le gouvernement, trois membres de ce regroupement viennent d'être suspendus pour une durée indéterminée. Il s'agit d'Elvis Moutirio Bachara, Henri Thomas Lokondo et Hyacinthe Richelieu Lumumba. Le député national Henri Thomas Lokondo rejette cette décision qu'il qualifie d'irrégulière. L'élu de Mandaka s'est ainsi exprimé mercredi dernier à Kinshasa devant la presse. On l'écoute au micro de Richard Junior Kamunga.
Nous sommes allés aux élections, le Palou a eu des députés, nous avons eu des députés, et dans l'acte constitutif, il est consacré le principe de la solidarité. Et ce qui est malheureux, d'abord, il faut que je vous dise, il faut que je fasse une mise au point, j'avais dit aux amis de Palou que moi, je n'étais ni preneur ni demandeur d'un poste au niveau du gouvernement. J'ai l'éthique. Après avoir été candidat président de l'Assemblée nationale et être encore candidat membre du gouvernement, tu vois, sur le plan de la morale politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas élégant. On avait demandé que chaque regroupement politique propose trois membres pour chaque poste. Donc pour nous, comme il y a deux postes, six membres. Tous les six membres qui ont été proposés sont des membres de Palou, ce qui n'est pas normal. Ils ont fait des réunions en catimini sans informer les alliés. Alors que si nous, les alliés, nous n'étions pas là, le Palou n'allait pas avoir le seuil de représentativité au niveau national. Donc nous avons gagné ensemble. L'équité demanderait que s'il y a deux postes, qu'on donne un poste au Palou et un poste aux alliés. Pas pour moi, mais pour les autres. Moi j'ai appuyé, il faut que je sois honnête vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ma propre conscience. Moi j'ai appuyé mon tir pour qu'il puisse être là, nous représenter au gouvernement comme allié.
Toutes nos tentatives pour avoir la réaction de Lugui Gizenga ou l'un des cadres du regroupement politique Palou et Allié n'ont pas abouti. Pius Romain Roland Ngoy, éditeur de l'hebdomadaire La Base des Patriotes, paraissant à Kinshasa, il est reproché, vous venez de suivre Henri Thomas Lokondo, il est reproché au dirigeant du Palou d'avoir aligné uniquement les membres du Palou sans tenir compte d'autres partis qui constituent, n'est-ce pas, ce regroupement politique. Comment vous comprenez cette attitude du Palou?
Je pense que c'est une attitude à condamner. Lorsque vous faites avec, pendant les combats, et lorsqu'il s'agit de se partager les gâteaux, vous vous recroqueviez entre vous pour manger seul les gâteaux. Je pense que Henri Thomas Lokondo a raison. Il a raison non seulement puisque c'est lui qui a besoin d'avoir ce poste comme étant allié, non, il a raison puisque les Palous seuls ne pouvaient pas faire face au seuil. Ça, c'est une évidence. Beaucoup de partis, d'ailleurs, il n'y a pas que le Palou. Il y a plusieurs partis, mais que ce soit le PPRD, que ce soit l'UDPS qui est allé en coalition avec les CASH, avec d'autres formations politiques, et que ce soit d'autres partis politiques, dès lors, vous avez accepté que vous ayez des alliés, et au moment de partage, acceptez aussi que les alliés fassent partir aussi de ce partage. J'ai vu la composition gouvernementale partant de distribution de postes au prorata de nombre de députés. Vous avez autant de députés, vous avez autant de postes. Je pense que le Palou, qui devrait avoir deux postes ministériels, par élégance, le Palou devait octroyer un poste aux alliés, puisque les alliés sont d'abord nombreux par rapport au seul Palou. Et ils peuvent avoir 7 ou 5 alliés, Et vous leur donnez un seul poste et ils vont savoir comment ils vont manager. L'essentiel, c'est de les associer à la gestion de la chose publique. Lorsque vous tenez des réunions dans l'obscurité, en catimini, comme le Henri Thomas Lokondo lui-même l'a dit, ça frise le manque de sérieux. C'est-à-dire, prochainement, lorsque vous allez encore chercher à compétir, d'ici d'ailleurs 4 ans et quelques mois, puisque ce n'est plus 5 ans, c'est 4 ans, pas même 4 ans et quelques mois, puisque 90 jours avant, il faut organiser, préparer déjà les élections, est-ce que Palou, avec sa manière d'agir, aura besoin d'autres formations politiques pour l'accompagner? Tout le monde va se rébiffer, va dire non, écoute, ce parti-là, écoutez, si vous allez en compétition, vous allez ensemble, lorsqu'il va s'agir de se partager les postes, va vous mettre en quarantaine. C'était la même chose avec ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale. Henri Thomas Lokondo avait bien notifié au Palou qu'il sera candidat. Et le Palou avait pris acte. Mais par après, et on arrive dans la salle, c'est un membre du Palou qui sort, qui dit non, on demande à Thomas Lokondo de retirer sa candidature. Tu vois que c'est ça justement ce que j'ai toujours dit. Nos partis politiques n'ont rien d'idéologie, n'ont rien de doctrine, n'ont rien de philosophie.
Merci Serge Banza Babasunga, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC Congo Central. Après leur suspension, l'honorable Henri Thomas Lokondo a affirmé, je cite, « Nous n'avons pas besoin du Palou pour exister politiquement ». Fin de citation. Vous ne pensez pas, Serge Banzaba, que cette crise va constituer, n'est-ce pas, le début d'un processus qui pourrait aboutir à l'éclatement ou carrément à la disparition totale, n'est-ce pas, des différents regroupements politiques?
Ça va arriver. Je suis certain que ça va arriver. Il faut d'abord dire que j'apprécie beaucoup Henri, Thomas, son franc-parler. J'étudie dans son école et il s'est dit ce qu'il pense bien, et je pense que Palou ne joue pas à l'étranger par rapport à ses partenaires, et ça va lui coûter cher, parce que il faut aller plus loin. Il y en a qui ont parlé en termes de membres de Palou, mais j'ai lu d'autres presses qui soutiennent, qui affirment que non, il ne s'agit non seulement des membres de Palou, mais des membres de famille de Kizenga, qui ont été retenus comme inimitriables. Et là, c'est plus grave encore. Et là, nous on croit que si nous continuons comme ça, la crainte, c'est qu'il y aura les débutements, les regroupements, les débutements des partis politiques. Et jusque-là, ça prouve à suffisance que nous n'avons pas encore atteint la maturité des temps politiques. C'est vrai. Il y en a qui vont se poser la question, quelle est la part de la population dans tout cela? C'est vrai. La part de la population ne peut ou ne pas être là, parce que nous savons tous que au sein de nos partis politiques, on milite d'abord pour les intérêts partisans. Ceux qui sont là militent pour les intérêts partisans. Voilà pourquoi ceux qui sont en train de se plaindre doivent également se dire avec qui il faut partir, avec qui il faut coaliser. Parce que l'acte constitutif de créer ce regroupement est clair. Impose aux membres du regroupement la solidarité. Mais ici, nous avons tous observé, il n'y a pas solidarité lorsque Palou ne pense qu'à ces gens. Et je pense que s'il continue comme ça, par le risque de disparaître, notre intervenant tout à l'heure, souligné Henri Thomas, a dit, mais Palou est influent où? Peut-être à Kinshasa, ici, dans les Bandundu. Nous qui sommes au Congo central ici, est-ce que c'est vraiment un parti influent? Même au niveau des Kassai, un peu partout. Palou doit être sincère, doit se dire que rendez-vous en 2023, et ce n'est pas long, il doit se contenir pour que tout le monde puisse se retrouver. Qu'est-ce que je peux dire comme conseil à nos gens du Palou qui pensent qu'il faut se servir et ne pas penser à d'autres?
Merci Pius Romain. Roland Ngoy, cette question de partage des postes n'épargne aucun regroupement politique. Il y a aussi à l'IDPS où il y a des divergences de vues entre l'organe exécutif supervisé par Jean-Marc Kabunda Kabunda et la commission électorale permanente présidée par Maître Jacquemin Chabani. Même au sein du FCC aussi, il y a des frustrations. On accuse le PPRD de vouloir obtenir la plus grosse part du gâteau.
Il n'y a pas la moralité dans la classe politique congolaise. Vous vous souviendrez, avant les élections, j'avais dit ici que le peuple congolais doit sanctionner tous les mauvais gestionnaires. Je l'avais dit ici. Et j'ai l'impression que tout ce que j'ai toujours dit sur votre station de radio, ça se réalise. Et regardez ce qui se passe au sein de l'UDPS. Ça, c'est une pièce de théâtre. La CEP, c'est quoi? la SEP. Et c'est un parti politique. Ce n'est qu'une branche de l'UDPS. Pourquoi vouloir monter les enchères pour rien? Ça se comprendrait au sein du FCC que le PPRD s'est taillé la part du lion par rapport aux autres partis politiques. Oui, ce sont les formations politiques avec des leaders autres que les leaders de l'UDPS. Mais au sein de l'UDPS, qui oublie que Jacquemin Chabani fut l'ancien secrétaire général de l'UDPS? Et puisqu'on t'a mis dans une commission électorale permanente, CEP soi-disant, les élections ont déjà pris fin. C'était qu'une structure temporaire.
Mais n'a-t-il pas le droit de réagir de cette manière-là lorsqu'il se rend compte qu'il est lésé par ses partages de postes, quand on ne tient pas compte de lui alors qu'il estime qu'il est parmi les gens quand même qui ont lutté, n'est-ce pas?
Non, écoutez, au sein de partis politiques, il y a toujours des ambitions. Tout le monde veut être... il s'est dit, bon, ce n'est pas d'abord le poste, nous sommes venus. En réalité, tout le monde cherche les postes. Mais dire que la CEP exige 3 postes, c'est comme si la CEP devenait un parti politique à part entière au sein de l'UDPS ou un partenaire de l'UDPS, alors que ce n'est qu'une branche qu'on a créée pour des raisons électorales. Chers confrères, je vous dis, si nous ne tirons pas attention, avec ces partis politiques, nous allons vers la dérive. La dérive, pourquoi? Parce que tous les ambitieux ne viennent pas pour travailler pour le compte de la République démocratique du Congo. Ils viennent pour leur propre compte. Je vous avais proposé ici, que ce soit les députés nationaux, que ce soit les sénateurs, que ce soit les ministres, qu'on leur dise, vous allez travailler avec un salaire de $500. Vous ne verrez personne se battre à la porte pour être ministre. Pourquoi? Parce que tout le monde ne voit que son bénéfice, le bénéfice de son clan, le bénéfice de sa famille, non pas le bénéfice de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, sur tous les candidats proposés, tous ont été gestionnaires. Quel est le bilan? 0, négatif. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je me dis, au lieu de mettre en place cette équipe éléphantesque de 65 membres, je me dis, bon, il y a l'administration. D'abord, c'est les ministères qui travaillent quand j'entends les gens parler. Non, vous oubliez les secrétaires généraux. C'est ça la charpente même de l'administration. La paie, le fonctionnement, tout ça se passe au niveau des secrétariats généraux. Les ministères ne sont que des structures politiques. Et dans les cabinets, on verra que les copines, les enfants des enfants de tels, les belles-sœurs, c'est ça ce qu'on va trouver dans. Il faudrait alors qu'on rédige une feuille de route d'éthique, même au niveau du cabinet. Comme qui dirait l'ancien chef de l'État Mobutu, on trouve un membre de sa tribu dans ton cabinet, pas deux, pas trois, ça devient du népotisme. Il faudrait qu'on arrive à cela. Merci. Et même au niveau du cabinet, il faut qu'il y ait de la méritocratie. Ce n'est pas un lieu où on va déverser les gens juste pour se faire de l'argent, s'acheter des terrains de foot, alors que le pays va souffrir énormément.
Merci. Merci Serge Banzaba Basunga. Ne peut-on pas affirmer que c'est le leader, n'est-ce pas, de ce groupement politique qui entretienne cette sorte d'anarchie? Parce que si en amont Joseph Kabila et Félix Tshisekedi s'étaient investis jusqu'à cette étape de répartition des postes, peut-être que on aurait, n'est-ce pas, évité cette cacophonie.
Oui, c'est pas parce que déjà, le fait de personnaliser les regroupements politiques, les partis politiques, tout part de là, hein. Personnaliser, on sait que lorsqu'on parle de tel parti politique, on voit un tel. Lorsqu'on parle de tel regroupement politique, on voit un tel. Et c'est ce qui fait que ces gens se sentent, se voient dans les droits de tout réclamer, de tout prendre. Et ils vous disent que j'ai moi-même dépensé. Et pourtant, c'est vrai, ils ont dépensé, mais ils se sont également servis de ces différents partis politiques-là pour atteindre un peu les faits, hein, de représentativité. Et c'est tout ce qu'ils oublient. En ce moment, ils doivent faire donc très attention. C'est pratiquement de l'escroquerie. Moi, je pense que nous devons même bien encadrer ce texte qui crée des partis politiques ou regroupements politiques au sein de notre pays. Qu'on puisse tout parler en termes de l'autorité morale. C'est une fiction, en fait, à un certain moment, qui devient une réalité au Congo, et on ne sait plus où allons-nous, et on doit bien encadrer, définir certains concepts. Quelle est l'autorité morale, quel est coordinateur des partis politiques, quelles sont ses attributions. Et là, c'est alors qu'on va protéger certaines volontés au sein de nos partis politiques. Moi, je me dis, est-ce que cette question qui est soulevée actuellement par rapport aux gens qui sont dans nos partis politiques, ce n'est pas pour un peu nous échapper du vrai débat, et celui de savoir, notamment en Crédit du Congo central, la géopolitique dans ce gouvernement ici. Parce que nous parlons en termes de gens, un tel ne s'est pas retrouvé, tel est frustré. Mais ça risque de distraire certaines provinces. Moi, en tant que du Congo central, je me dis, est-ce que la province du Congo central va se retrouver? Nous savons qu'elle a toujours été la vache, la pierre de ce pays ici. Quelle notre part? Ça risque d'échapper à ce débat-là et de parler de ces gens qui sont frustrés des personnes individuelles. Mais toutefois, nous pensons que le président de la République du pays ne sera pas distrait. Mais les garants, nous avons tous appris qu'il vient de porter quelques modifications en insistant qu'il y ait quand même représentativité significative de la femme au sein de ce gouvernement. Il ne va pas se laisser emporter par ces débats-là. Il faut voir les vrais problèmes, le genre, la géopolitique, la probité morale et tant d'autres histoires. Et qui puissent quand même faire que nous puissions avoir un gouvernement digne de son nom.
Pius Roland Ngoy, vous avez suivi Serge Bazamba Basunga qui a rappelé, n'est-ce pas, que le chef de l'État a demandé qu'on puisse tenir compte dans les listes qui lui ont été proposées, notamment la représentativité de toutes les provinces, de la femme aussi. Et après les négociations entre les deux alliés CACH et FCC, des négociations qui ont pris plusieurs mois, apparemment, c'est le début d'interminables négociations, n'est-ce pas, auxquelles on risque d'assister au sein des groupements politiques et qui risquent malheureusement de retarder la mise en place du gouvernement que tout le monde attend.
Je vous dis tantôt ici que tout le monde ne roule que pour son compte. Il y a eu un critérium. Je vous ai dit, tout le monde a géré. Et ceux qui ont géré n'ont rien apporté de plus. J'aurais voulu que le chef de l'État et son partenaire du FCC disent une seule fois pour toutes, vous avez assez géré il y a longtemps, laissez les nouvelles figures, les jeunes gens qui peuvent monter, les jeunes femmes. Il y a des femmes qui sont capables de le faire. Je l'ai dit plusieurs fois. Et pourquoi? Vous avez vu Jeannine Mabunda. J'étais favorable à la candidature d'Henri Thomas Lokondo. Je l'ai accompagné, je l'ai soutenu. Mais cela n'enlève en rien la méritocratie de Jeannine Mabunda. Et je me disais, pourquoi pas même une première ministre femme? Pourquoi on ne peut pas avoir une femme comme première ministre? Vous avez des jeunes gens qui sont capables de le faire, que ce soit au niveau de l'UDPS, que ce soit dans la presse où nous nous sommes, que ce soit dans la société civile. Il n'y a pas que les politiques qui doivent s'accaparer les postes ministériels. Non, c'est les gouvernements de tous les Congolais. On doit voir toutes les couches sociales, que ce soit dans la presse, que ce soit chez le médecin, que ce soit dans le parti politique, que ce soit chez le professeur. Il y a des hommes capables d'animer le ministère, la méritocratie. Cette histoire de voir l'équilibre géopolitique, oui, ça va, ça peut arriver, mais face à une méritocratie, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut promouvoir la tribu et vous laisser la méritocratie. Je l'ai dit par exemple.
Il y a la participation de la femme, n'est-ce pas?
Oui, la participation de la femme. Je l'ai dit par exemple au sein de l'entrepreneuriat. Il y a des jeunes gens comme Didier Ngoy qui sont capables d'être même des ministres de l'industrie, plus que dans le privé, ils ont prouvé ce qu'ils sont. Vous allez par exemple au PPRD, il y a des jeunes gens comme Patrick Kanga, il y a des jeunes gens comme Papim Pongo, qui sont capables de le faire. Vous allez à l'UDPS, il y a des jeunes gens qui sont capables de le faire. Vous allez à l'UNC, il y a des jeunes gens comme les Seleyenga, qui sont capables de le faire. Vous arrivez dans la presse, s'il faut citer les noms de femmes, vous avez les Laurette Mandala, vous avez les Mami Ngumba, vous avez Madame Kelly ici qui est dans le studio. Et elles sont nombreuses, qui ont de la compétence, qui ont étudié. Pas des ministres qui sont allés acheter les diplômes et venir nous boucher les oreilles dans les ministères, comme s'ils ont la science dans leur tête.
Merci.
Nous avons des preuves.
Serge Bazamba Basunga, vous avez suivi Romain Roland Ngoy qui souhaiterait, n'est-ce pas, que les deux leaders, Félix Tshisekedi et Kabila, puissent promouvoir les nouvelles figures. Est-ce que cela ne va pas soulever cette question des gestions, des ambitions au sein de ces partis politiques, de ces groupements politiques, dans ce sens que, s'il faut prendre l'exemple du FCC, ceux qui sont autour de l'ancien chef de l'État Kabila, c'est des figures auxquelles on est habitué, des vieilles figures, si on peut le dire ainsi. Alors, comment est-ce qu'il va promouvoir de nouvelles figures alors que ce sont ces vieilles figures qui ont mené toutes les négociations jusqu'à la fin?
C'est ça l'inquiétude d'abord, en fait. Vous avez un peu raison, mais pas du tout, parce que je l'ai dit, d'abord, nous parlons aujourd'hui en termes d'un bicéphalisme au niveau de notre pays, alors que ce n'est pas le cas. On a un seul président de la République, comme des fois de le dire. À chaque fois, on nous cite deux noms, comme si on avait deux présidents. Ça, c'est un danger. Hein? Ça va nous rattraper un jour, cette réalité ici. Parlez-moi en termes du président de la République, tout simplement. Là, je serai d'accord. Vous avez bien, je vais être candidat. C'est vrai, il va te poser un problème parce que ces gens-là qui ont accompagné les négociations, ils vont se retrouver, même s'ils ne se retrouvent pas, mais ils vont se faire représenter par des gens qui vont obéir à leurs ordres. Moi, je prends l'exemple du Congo central. On est habitué à être menacé, on est là à tenter d'être rançonné. Quand on a un gouverneur, pour faire longtemps au poste, il doit nourrir Kinshasa. Et c'est le jeu de ces gens-là qui sont partis. S'ils reviennent, nos provinces seront davantage pauvres. Ils vont revenir avec les mêmes méthodes. Tout le temps, des menaces auprès du gouverneur, tout le temps, des missions de services non justifiées, tout le temps. C'est ça ma crainte. On doit en fait tourner la page à tous ces figures-là qui ont déjà géré le pays parce qu'ils connaissent les mauvaises méthodes pour rançonner les gouverneurs des différentes provinces que nous comptons ici en RDC. Donc, moi, je pense que c'est le président de ce qui est le garant de tout ce qu'on peut vivre demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, le président de ce qui est le garant, ça, c'est dire que non, il s'agit d'une coalition, nous devons faire très attention parce que au finish, nous allons faire le bilan de son mandat. Et s'il se laisse faire, par rapport à ses anciens prédateurs, nous allons le regretter. Tous ne sont pas mauvais, certes. Mais je vous dis, mon cher confrère, que Jésus-Christ a fait de bonnes choses. Il n'a fait que 2 ans, il est parti. C'est pas parce qu'on a été bon ministre, on doit revenir, non.
Alors, Serge Bassunga-Bazaba, parce que nous sommes déjà dans une sorte de crise, n'est-ce pas, qui pourrait bloquer même le processus de la mise en place de ces gouvernements que nous tous nous attendons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez, n'est-ce pas, pour sortir de cette sorte de crise afin d'accélérer ce processus de la mise en place de ces gouvernements?
Bon, je viens de le dire tantôt là, hein, début mot. C'est le président qui de prendre les grandes décisions. Il doit se décider parce que ça ne doit pas traîner comme nous le vivons aujourd'hui, c'est devenu pratiquement un événement alors qu'on pouvait bien simplifier les choses. Moi, je pense que ce qu'il peut faire, c'est vrai, je rejoins un peu ce qu'on dit à certaines personnes ici, qu'il faut peut-être parler avec l'ancien président, mais il doit quand même exprimer sa position. Hein? Il doit mettre en premier lieu sa position. Lui-même, déjà, de fait, il connaît tout le monde, à moins que je me trompe, parce qu'il y en a qui nous parlent d'un président qui ne maîtrise rien, alors que ce n'est pas le cas. C'était pareil même avec le président Kabila. Il y en a qui croyaient que le président Kabila était un ignorant. Et cette manière de voir les choses commence à voir revenir avec le nouveau président. Donc, le politique ne doit pas donner l'impression qu'il ne connaît rien. Il connaît quelque chose. Il doit consulter le plus grand livre de morale. C'est donc sa conscience. Je pense que les choses vont bien marcher.
Merci Pius Romain Roland Ngoy. Vous avez suivi Serge Banzaba Bassunga qui estime que le chef de l'État devrait prendre les choses à main. Et vous avez aussi proposé, n'est-ce pas, la rédaction d'une feuille de route d'éthique. Oui. C'est quoi la solution pour vous pour qu'on sorte de cette crise?
Oui, je pense que ce que Serge a dit en partie, c'est vrai. Mais en d'autres choses, il doit savoir que le pouvoir actuel, c'est un pouvoir de partenariat. Il y a l'un qui a gagné à la présidentielle, qui a échoué aux législatives. Il y a l'autre qui a échoué à la présidentielle, qui a gagné aux législatives. Et il faudrait que ces deux personnes comprennent les soucis des Congolais. Les Congolais ne veulent point voir ces figures qui ont géré hier. Le ministère n'est pas un clan. La politique n'est pas une carrière. C'est un mandat qu'on te donne. Si le peuple te dit, mets-toi d'abord à côté, allez-y comprendre. Je vous ai cité certains noms ici. Il y en a beaucoup.
Et donc, vous voulez dire, Pius, que tout est fonction du comportement des leaders du FCC et de
Tout à fait, puisque le gouvernement est l'émanation de cette coalition CASH-FCC. Qui représente CASH, c'est Félix. Qui représente FCC, c'est Joseph Kabila. On ne dit pas que Joseph Kabila est encore président de la République. Non, il a la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. On ne peut pas faire quelque chose sans lui. Et il faudrait que ces deux-là aient quand même l'âme de l'État, comprennent les soucis des Congolais. Tous ces noms-là qui veulent revenir, il y en a d'autres qui ont fait Kabila. Désir, aujourd'hui c'est Tshisekedi dit Désir. Et Mobutu, alléluia, si, il faudrait que ces gens-là disparaissent un peu. La République démocratique du Congo n'est pas une monarchie. Tout le monde peut faire, même vous, Guy Maté. Je vous ai cité les noms ici. Il y a des jeunes assistants comme Eddie Lokangu, qui sont des bons juristes. Vous avez les gens comme Eric Tsungu. Vous avez les gens comme José Ndeka. Ce sont des jeunes gens qui sont à même d'apporter un nouveau souffle. Parce que ceux qui sont là, ils ne sont pas des ministres. Il y a ceux qui ont été ministres à l'âge même de 50 ans. Mais alors qu'il y a des jeunes gens qui ont fait un parcours universitaire élogieux, qui sont capables de relever les défis qu'on laisse d'abord à une nouvelle classe politique. Les renouvellements de la classe politique. Pour une fois qu'on écoute la population, pour une fois qu'on satisfasse la population, pour une fois qu'on réponde aux besoins de la population.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, deux malades d'Ebola ont regagné leur famille mardi dernier à Goma, au Nord Kivu, après avoir été déclarés guéris. C'est le résultat du nouveau traitement mis en place par l'équipe des ripostes dirigée par le docteur Muyembe. Les deux malades, pris en charge depuis près de deux semaines dans les centres de traitement d'Ebola CTE, sont donc déclarés guéris. Ils ont reçu un traitement curatif à la satisfaction de l'équipe des ripostes. Pour le docteur Muyembe, la guérison de ces malades est un message à toute la population de Goma et d'ailleurs qu'Ebola est une maladie dangereuse mais aussi guérissable pourvu que toute la population se mobilise. Un reportage de Sifa Maguru.
Que le Seigneur soit loué, je remercie beaucoup le Seigneur. J'étais malade d'Ebola avec mon enfant, mais Dieu vient de me guérir. Mes frères, il ne faut pas douter qu'Ebola n'existe pas. Ebola existe. C'est en ces termes que la femme malade, épouse du deuxième cas d'Ebola dans la ville de Goma, décédée, a exprimé sa joie d'être guérie et témoigné devant la population. Les responsables de la riposte ont, à leur tour, montré que c'est grâce au travail de la surveillance et toute la chaîne de la riposte que la prise en charge de ces deux malades a réussi, alors que les équipes de riposte ont su identifier et vacciner tous les contacts jusqu'à ce qu'aujourd'hui il n'y ait pas un seul cas supplémentaire des malades. Le docteur Muyembe.
Bon, d'abord, grâce au fait que ces cas ont été détectés très rapidement. Donc, nous avons donné les traitements nécessaires, qui est efficace, et voilà, en peu de temps, les deux sont guéris. C'est ce que la dame a dit. Ebola tue vite, et Ebola aussi, on guérit vite. C'est ça le message.
Après la cérémonie, les équipes de la riposte et leurs partenaires ont accompagné les ex-malades jusque dans leur communauté au quartier Kiziba, chez Ferry de Munigi, où ils ont également procédé à leur réinsertion, ainsi que sensibiliser la population. C'était en présence du gouverneur de province et d'autres partenaires de la riposte, notamment l'OMS. Sifa Maguru, Radio Okapi.
Merci à vous, Sifa Maguru. Serge Banzaba Basunga, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC Congo Central. Comment vous réagissez à cette nouvelle faisant état de la guérison de ces deux malades, la maman et son enfant à Goma, au Nord Kivu?
Voilà, c'est un sentiment de joie parce que Ebola signifiait tout simplement la mort. Mais là, nous avons tous compris que on peut bien attraper la maladie et ne pas mourir. C'est quand même une grande nouvelle pour nous. Mais là, on doit se poser la question qui était de savoir, de mettre un peu en cause le système sanitaire en RDC. Pourquoi attendre l'apparition de la maladie pour organiser des réponses? C'est ça le plus grand problème. Et voilà, c'est forcément un indicateur aussi, hein, un indicateur d'un système de santé contrôlé par les dirigeants. Il y a déjà deux ans passés, j'ai accompagné l'ancien ministre de la Santé au niveau du Congo central qui s'est rendu dans la province de Zaïre en Angola. On avait tenu là-bas une réunion pour voir un peu comment contrôler les épidémies au niveau de nos frontières. Nous avons senti les périers dans les chefs de nos amis angolais. Vous sentez, les études sont menées, on met beaucoup d'argent et vous voyez, beaucoup d'autorités étaient là, mais la partie congolaise n'était pas que tout représentée. Moi, je pense que nous devons renforcer les contrôles au niveau de nos frontières. On doit former les gens et ne pas attendre qu'il y ait un dixième épidémie. Il y en aura peut-être une dixième. Donc, là, on vient de trouver les médicaments, c'est ce qu'il faut le dire. Il faut maintenant voir comment prévenir. Parce qu'on nous apprend qu'il y a des chauves-souris et puis les singes. Or, nous ne sommes pas l'unique pays au monde à avoir les singes et les chauves-souris. Pourquoi ailleurs il n'y a pas Ebola seulement chez nous? Nous devons tout faire pour contrôler nos forêts, mais aussi pour contrôler nos eaux. Je sais pas protéger la population.
Kius Romain Roland Ngoy, éditeur de l'hebdomadaire La Base des Patriotes par Saint Kinshasa. Avec la mise en place de ces nouveaux traitements, peut-on espérer vaincre cette épidémie dans un futur proche?
Guy Maté, vous vous souviendrez encore que dans ce même studio, je vous avais dit ici que le Congolais est capable, nous avons la main d'œuvre susceptible d'éradiquer cette épidémie. Ici, dans ce studio, je vous avais dit ceci, il y a eu fuite de cerveau. Nous avons des très bons médecins qui sont ailleurs, qui font l'éloge de la République démocratique du Congo, mais qui ont fui leur terre à cause de l'encadrement, à cause de la politique sanitaire de la République démocratique du Congo. Voilà un médecin, Bouyembe, qui a mis fin à Ebola au Libéria, qui a mis fin à Ebola en Sierra Leone. Et aujourd'hui, depuis qu'il est là, est-ce que vous avez entendu des morts? Il n'y en a pas eu. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire prochainement? Puisqu'il y a ces guérisons, il faut qu'il y ait la politique de la prévention. Nous devons avoir le vaccin. Je venais d'apprendre que c'est un Congolais qui vit aux États-Unis qui aurait mis en place ce vaccin.
En fait, d'ailleurs, les deux nouvelles molécules, c'est les fruits du partenariat des scientifiques congolais et américains,
mais
notamment
oui.
Mouyembe.
Mais je l'ai dit, nous avons de l'expertise, nous avons de très bons médecins. Les Congolais, une fois vous le mettez dans des conditions, est capable de vous produire un bon travail. Regardez tous les cerveaux congolais qui sont à l'extérieur. Excel. Pourquoi? Parce qu'ils sont mis en condition. Au Rwanda, les professeurs qui sont là-bas sont des Congolais. Au Gabon, les professeurs qui sont là-bas sont des Congolais. En Afrique du Sud, les médecins qui sont là-bas sont des Congolais. Partout ailleurs, vous allez trouver même des ingénieurs qui excellent. Il faudrait qu'au niveau de la République, au niveau de l'État congolais, qu'on essaie de mettre des structures susceptibles à ne pas faire fuir les cerveaux à l'extérieur. Imaginez-vous, si Mouyembe serait à l'extérieur, utilisé à l'extérieur. Je viens de suivre le reportage. C'était la femme d'un patient qui est mort d'Ebola, mais qui est guéri. Par qui? Par Mouyembe. Et depuis que Mouyembe est là, je n'ai pas entendu les réseaux sociaux dire « Aujourd'hui, il y a eu un mort. Il y a eu deux morts. Il y a eu trois morts. Il n'y a que des guérisons. » Bravo au professeur Mouyembe. Et il faudrait qu'il forme d'autres médecins. Et ça serait toujours dans des bonnes mains de la République démocratique du Congo.
Serge Basunga Banzaba, le docteur Mouyembe attire l'attention de la population sur le fait que la mise en place de ces deux molécules, ces nouveaux traitements, n'est-ce pas, ne doit pas pousser les gens à baisser la garde.
Non, je ne dois pas pousser la population à baisser la garde. On doit doubler la vigilance davantage parce qu'il faut noter qu'il s'agit là de marginaliser qui vient de trouver la solution. C'est-à-dire le docteur Mouyembe était pratiquement marginalisé. Voilà, il est revenu, c'est lui le maître qui fait les prouesses. C'est ça. Partout un peu, on est en train de politiser même le domaine de la santé, alors que c'est pas normal. Si vous venez même ici au Congo central, la plupart des médecins qui sont dans des hôpitaux comme ça, qui sont les frères ou les connaissances des ministres, des gouverneurs, même s'ils ne sont pas meilleurs, on est en train de tuer les domaines de la santé. De la santé. Je prends l'exemple avec notre hôpital général de Kinshasa ici. On n'a presque pas de médecins de référence. On donne des noms comme ça, hôpital de référence, mais il n'y a pas de...
Serge Basunga, apparemment il y a un problème avec sa ligne. Pius Romero là, Ngoï, les avancées sur les plans techniques qui sont maintenant, n'est-ce pas, constatées et la mise en place des différents traitements. Et comment la RDC pourrait capitaliser cela pour prévenir cette épidémie? Serge Banzaba Basunga s'est demandé pourquoi il faut attendre qu'une maladie se déclare pour commencer à réagir.
Apparemment,
on ne peut pas prévenir.
Apparemment, nous avons la politique attentiste. Il faut attendre que les choses dégénèrent pour déployer les moyens et déployer les moyens humains pour éradiquer cette maladie. Je pense que c'est le moment. C'est la 10e épidémie. Ça n'est de trop. Il faut arriver maintenant à la prévention. Même si on entend qu'il y a un cas, il faut prévenir sitôt pour que ces cas-là ne puissent se dégénérer.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Polydor Basunga qui est à la technique, à Kalim Kouté qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi.